France Culture. Sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Connaissez-vous le dit du Genji ? Peut-être pas. Il s'agit pourtant du premier roman de l'histoire de la littérature. Et vous savez quoi ? Ce livre écrit au XIe siècle, au Japon, par Murasaki Shikibu, a des allures de conte de fées torturé, avec un prince charmant exilé et la perte de l'être aimé.
Le Genji Monogatari, ou roman de Genji, G-E-N-J-I, demeure de loin le chef-d'œuvre le plus caractéristique de la littérature japonaise de l'époque de Heian. Ce très long ouvrage, d'environ 1600 pages de texte dans une édition imprimée moderne, a été rédigé par une femme, Murasaki Shikibu, la fille du Fujiwara Tametoki, disons en gros à partir de l'an 1000, car nous ignorons et la date de naissance et la date de la mort de Murasaki Shikibu.
Bonjour Anne Bayer-Sakai.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'INALCO, Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Vous êtes spécialiste de littérature japonaise et traductrice. Vous participez également aux travaux du groupe de recherche et de traduction du Genji Monogatari de l'INALCO et de l'Université Paris-Cité. Est-ce que j'ai eu raison de présenter le dit du Genji comme le premier roman de l'histoire de la littérature, et je rajoute mondiale ?
J'imagine que des spécialistes de littérature d'autres ères auraient leur mot à dire sur cette question, parce qu'on est toujours très fiers d'avoir le premier roman de l'histoire de la littérature universelle. Donc on peut toujours, en fonction de la manière dont on définit le roman, considérer que non, ce n'est pas encore un roman, ou que déjà d'autres textes de la littérature latine, par exemple, étaient des romans. Donc je ne peux pas vous répondre de manière catégorique, mais que ce soit un roman extraordinaire quand on pense en particulier qu'il a été écrit aux alentours de l'an 1000, ça je pense que personne ne le contestera.
Alors qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire justement ce roman ? Et on peut vraiment parler de roman.
C'est un roman, c'est donc un récit qui relate sur environ en fait 70 années. La vie à la cour d'un certain nombre de personnages, et en particulier de l'un, qui est donc le prince Genji, autour des aventures de qui toute l'intrigue va se construire. Et on va partir donc de sa naissance, de ses amours contrariés, contrariés ou non d'ailleurs, parce que c'est un donjon, c'est un séducteur, et aussi donc des vicissitudes de sa vie non seulement sentimentale et amoureuse, mais aussi politique. Et cela donc sur plusieurs dizaines d'années. Et ensuite, à peu près un dernier tiers de ce long roman est consacré à la figure de son fils, qui n'est en fait pas vraiment son fils, mais puisqu'il est le fruit d'un amour adultère, d'une relation adultère de l'une de ses épouses. Et les aventures de ce fils donc vont occuper les derniers livres de ce roman, qui fait quand même 54 livres, qui fait donc dans la traduction française, on a deux volumes
ouais.
de 600 pages et quelques, donc ça fait au total
qui est très lourd, c'est un volume,
des grandes pages.
Ça donne, alors, autant le dire tout de suite, Anne Bayer-Sakai, c'est que le dit du Genji, c'est un texte qui est extrêmement populaire au Japon, qui est moins connu ou pas trop connu en France, et en partie cette édition-là, le fait que ce soit très long, qu'il y ait beaucoup de péripéties, beaucoup d'épisodes, vous avez recensé 500 personnages à peu près, c'est ça ?
Oui, il y a
en fait quelque chose d'écrasant.
Tout à fait, c'est une vraie saga. D'ailleurs, pour se repérer dans les éditions japonaises, on a quasiment toujours des tableaux généalogiques pour savoir qui est qui, parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Les personnages, en plus, sont désignés par leur fonction, non pas par leur nom, mais par leur fonction, les fonctions qu'ils occupent à la cour. Donc, il faut en plus réussir à s'y retrouver. Donc, la lecture est une aventure en soi.
Mmh. Vous l'avez lu plusieurs fois.
Donc, je l'ai lu plusieurs fois, mais si je dis cela, ça va paraître très présomptueux, parce que je ne prétendrai pas du tout l'avoir lu plusieurs fois dans sa version originale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce texte est écrit dans le japonais du Xe siècle. C'est ce qu'on appelle la langue classique. Et la langue classique n'est pas du tout la langue qu'on lit et qu'on parle aujourd'hui au Japon. Donc, j'ai lu le Genji, ce roman, donc, comme tous les Japonais, enfin, comme tous les Japonais qui l'ont lu, c'est-à-dire quand même un certain nombre de Japonais, dans une traduction en langue moderne. Et le prestige de ce roman est tel que il y a un genre littéraire, romanesque, moderne, quand même assez particulier, qui est la traduction en langue moderne du Genji par des romanciers. C'est-à-dire, à côté, bien sûr, de toutes sortes de traductions en langue moderne académiques faites par des universitaires, il y a donc des traductions en langue moderne par des romanciers. Et depuis le début du XXe siècle, oui, on en compte au moins 5. Et la plus récente est de 2019. Donc c'est vraiment un genre, la traduction en langue moderne du Genji par des romanciers, c'est un genre qui se perpétue. Et si c'est un genre qui se perpétue, c'est parce que, évidemment, le texte est tellement prestigieux que les romanciers ont intérêt, bien sûr, à s'y greffer, en quelque sorte, pour essayer d'en
greffer à la culture, au patrimoine.
Oui, et puis c'est... Pour le prestige du romancier, c'est bien de traduire le Genji en langue moderne aussi.
Alors expliquez-nous pourquoi ce texte est autant prestigieux, en fait, pourquoi il a autant marqué de sa parution. Alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de parution au XIe siècle au Japon jusqu'à maintenant. En fait, qu'est-ce qui fait que ce texte, il a autant marché, autant frappé et continue encore à inspirer les Japonais aujourd'hui ?
La réponse à votre question est certainement multiple, mais un des facteurs, le facteur essentiel, c'est bien sûr la qualité littéraire absolument extraordinaire de cet ouvrage, sa richesse. Parce que quand on parle du Genji, on a toujours des mots clichés qui viennent à la bouche, mais c'est une richesse inépuisable. C'est-à-dire chaque fois qu'on le relit, on y découvre des choses. Oui, je suis vraiment dans le cliché, je l'assume. On est dans le monument, littéraire. Et ça veut dire aussi que, d'abord, sa valeur a été très vite reconnue. On sait que dès le moment de son écriture, on s'arrachait à la cour les copies, parce que tout ça, bien sûr, c'est bien avant l'imprimerie. Donc, il n'y a que des copies manuscrites. Vous imaginez le temps que cela peut prendre et le nombre de personnes qui peuvent être mobilisées pour constituer ne serait-ce qu'une version intégrale de cet ouvrage. On sait que par bribes ça circulait à la cour et que ça circulait même la circulation était même tellement prisée que l'autrice dont on ne sait au demeurant pas grand-chose, l'autrice Murasaki Shikibu, raconte dans son journal que elle s'était éloignée un moment de ses appartements pour l'impératrice, l'épouse impériale dont elle était la dame de compagnie. Donc elle s'était au moment où celle-ci allait donner naissance à un fils impérial d'ailleurs. Et donc quand elle est rentrée, quand elle a enfin pu regagner ses appartements, elle s'est rendue compte que le régent, l'homme fort de l'époque, s'était introduit dans ses appartements et avait volé le manuscrit, les éléments qu'elle était en train de corriger pour les offrir à l'empereur. Donc, c'était
Elle les a retrouvés ?
Non, elle les a jamais retrouvés.
Donc, elle a dû les réécrire.
Donc, elle est très amère dans son journal parce que c'est du travail un peu pour rien qu'elle a dû reprendre. Et des histoires de ce genre, il y en a quand même à répétition dans l'histoire de la transmission de ce texte, puisqu'en fait, on n'a pas de manuscrits, on n'a pas de texte original, c'est-à-dire qu'il n'est resté, on n'a aucun document qui d'époque.
Surtout si ça a été copié, recopié, certains passages volés, réécrits.
Donc il y a une histoire assez rocambolesque déjà de la transmission du texte. Et en fait le texte il y a trois grandes versions aujourd'hui, deux principalement, mais une troisième à laquelle qu'on passe aussi donc de ce texte. La plus ancienne date du début du XIIIe. Et on la doit au plus grand poète de l'époque, compilateur d'une anthologie impériale, enfin vraiment une très très grande figure culturelle de l'époque. Et il explique que il avait une copie du texte, mais qu'on la lui a volée. Et que donc, il a dû reconstituer, avec les fragments qu'il a pu retrouver, etc., etc., une version du texte. Et toute la transmission du Genji est un peu, comment dire, cette histoire assez symbolique de la transmission du Genji. Mm-hmm. Donc, on n'a aucun texte qui soit absolument sûr. Tout est fait, et puis on sait bien sûr, compte tenu du mode de reproduction, vous avez tout à fait raison de le pointer. On sait très bien que les copistes ne sont pas toujours extrêmement scrupuleux. Donc, entre les ajouts, les retraits, les erreurs, enfin bon, il y a du travail.
Donc, c'est un texte qui a marqué, qui continue à marquer. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait. C'est le début, c'est la naissance du Genji.
En quel règne, je ne sais, parmi les épouses impériales et dames d'atour qui nombreuses servaient Sa Majesté, il en était une qu'entre toutes, et encore qu'elle ne fût de très insigne parage, sa faveur avait pour l'heure distinguée. Qu'elle fût matin et soir appelée au service du palais ne faisait qu'irriter ses rivales, si bien qu'à force sans doute d'attirer sur elle les rancœurs, sa santé s'altéra. Et dans son désarroi, elle en vint à séjourner de plus en plus souvent dans sa famille, ce dont l'empereur fut mal content et ému de pitié. Lors donc, sans daigner se soucier des médisances, il lui prodigua des égards qui pouvaient créer un précédent fâcheux. Dignitaires et gens de cour outrés disaient avec des regards en biais que c'était là une passion qui offusquait les yeux. Profonds avaient dû être les liens qui à Sa Majesté l'alliaient, car un prince lui naquit, un pur joyau, qui n'avait son pareil au monde. L'empereur, qui ne se tenait d'impatience, bientôt le fit venir au palais, et put de ses yeux constater que les traits de l'enfant étaient d'une rare beauté. Certes, le prince premier, né d'une épouse impériale, fille du ministre de la droite et puissamment appuyé, était entouré des soins les plus attentifs parce que nul ne doutait qu'il serait l'héritier présomptif. Mais comme il ne pouvait par l'éclat de la beauté se mesurer à celui-là, et encore qu'il occupa dans les pensées du souverain une place insigne, ce dernier prodiguait en privé des attentions infinies à ce prince cadet. La mère de celui-ci était de parage telle qu'elle n'eût par principe dû assurer le service commun de Sa Majesté. Or, bien qu'elle fût tenue en estime fort insigne, et qu'altier fût son maintien, l'empereur, sans rime ni raison, requérait sa présence, et chaque divertissement commandé par l'usage, ou quelque autre occasion que ce fût, était pour lui avant tout le prétexte de la faire mander auprès de lui. Parfois, il la retenait dans les appartements de nuit, pour la garder encore à ses côtés.
Livre 1 du Genji, c'est la naissance du Genji. Pourquoi, Anne Bayer-Sakai, un tel prestige de ce texte et un tel attachement en fait à ce personnage du Genji qui est un être magnifique qu'on voit naître dès ses premières pages?
On peut certainement considérer que c'est la naissance d'un archétype romanesque. Un certain type de personnage, donc comme je le disais tout à l'heure, un grand séducteur, aussi un homme de pouvoir. Donc ça définit, si vous voulez, les caractéristiques d'un certain type de personnage de roman. Mais à partir de là, on peut tirer l'argumentation dans deux sens différents, me semble-t-il. D'abord, il y a la question de la vie de ce personnage. Donc, il naît donc de cette favorite de l'empereur qui va mourir alors que le prince n'est encore qu'un enfant. Il a 3 ans, je crois, à la mort de sa 2 ans ou 3 ans à la mort de sa mère. Elle meurt victime d'une certaine façon de la jalousie que suscite la faveur que l'empereur lui témoigne. Et l'empereur ensuite va épouser une femme qui est d'une certaine façon le sosie de celle qu'il a perdue, qui est donc la mère du Genji. Et on enclenche là une véritable trame romanesque, s'enclenche là une véritable trame romanesque parce que le Genji va être toute sa vie à la recherche d'une femme qui est elle-même le sosie de la mère qu'il a perdue très jeune. Il va être amoureux de l'épouse de son père.
Qui ressemble donc à sa mère.
Qui ressemble donc à sa mère. Il va prendre comme épouse, après l'avoir adoptée tout enfant, une fille, une petite fille, donc au départ, qui est une nièce de cette deuxième épouse impériale et qui en est aussi le portrait tout craché, etc. Donc il y a une sorte de détermination, de fascination amoureuse qui se fixe là et qui est véritablement un moteur romanesque, puisque c'est ça qui va déterminer beaucoup des actions du prince tout au long du roman.
Est-ce que c'est ça qui tient le lecteur en haleine, que ce soit au XIe siècle ou encore aujourd'hui? Savoir en fait si le Genji finalement va réussir à dépasser le deuil de sa mère et l'omniprésence de ce fantôme qu'est sa mère.
Je pense que c'est l'une des lignes directrices que le lecteur ou la lectrice se trouve incité à suivre. Mais il y a beaucoup beaucoup d'autres choses
parce il y a plein de personnages.
Voilà, c'est un roman très très touffu. Il y a constamment des anecdotes qui viennent se greffer sur ces grandes lignes. Et puis il y a toute la description d'une vie de cour extrêmement raffinée, extrêmement fastueuse. Il y a aussi tout le parcours politique du prince, son ascension, son exil, donc la défaveur politique dont il va être l'objet, et puis son retour à la cour, le moment où il va atteindre l'apogée, etc. Donc il y a aussi tout cet aspect-là d'une vie de cour dans ses aspects aussi bien culturels que politiques, qui demeure fascinant pour le lecteur. Tous ces aspects-là demeurent fascinants aussi parce que ils ont suscité dès le XIe siècle, et puis en tout cas dans les siècles suivants, c'est énormément de non seulement de commentaires, parce qu'il y a des commentaires bien sûr du texte, mais aussi c'est un réservoir de représentation. Donc il y a énormément de d'images, par exemple de ce qu'on appelle des genjie, donc des peintures du Genji qui ont été faites tout au long des siècles. Il y a des rouleaux illustrés du Genji qui ont été faites et qui transmettent aussi bien le texte que des parties, des fragments du texte, que des fragments d'images, etc. Donc ça, c'est quelque chose. Le Genji est une sorte de matrice vraiment culturelle qui va irriguer toute l'histoire culturelle japonaise.
Et puis il y a quelque chose, une personne dont on n'a pas parlé jusque-là, c'est l'autrice du Genji, parce que ça semble fascinant aujourd'hui en 2023 de se dire qu'au XIe siècle, c'est une femme qui a écrit ce qui est peut-être, sûrement, le premier roman de l'histoire mondiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Murasaki Shikibu ?
Alors, sur elle-même, on n'en sait pas beaucoup. On sait qu'elle était, donc, on connaît le nom de son père. On sait que c'était un père, donc qu'elle est d'une famille de moyenne noblesse, et que son père occupait une fonction relativement subalterne dans l'administration. Donc ça n'est pas une grande famille de la noblesse. Elle fait partie de cette moyenne noblesse et c'est pour ça qu'elle était donc une des dames de compagnie d'une impératrice impériale, en l'occurrence Shōshi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans une situation où l'écriture littéraire en prose, prosaïque donc, en japonais, est réservée aux femmes. Ou plus exactement, les hommes n'écrivent pas de prose en japonais, ils écrivent en chinois.
D'accord.
Qu'on appelle le sino-japonais, mais donc une version japonaise du chinois, si je puis dire, et qui est la langue de pouvoir, la langue de prestige, tous les textes officiels, tous les journaux masculins, qui sont des journaux toujours officiels ou semi-officiels, sont écrits en ce qu'on appelle le kanbun, c'est-à-dire en sino-japonais. Les femmes n'écrivent pas en sino-japonais et les hommes n'écrivent pas en japonais. Sauf pour un genre qui est la poésie en japonais, qui est un genre extrêmement prestigieux parce que la poésie a un rôle très important à la cour. Et d'ailleurs, on le voit dans le Genji, j'y reviendrai après si vous voulez. Et en dehors de ça, donc l'écriture en prose est vraiment l'apanage des femmes. Donc il y a des romans Le Genji Monogatari n'est pas le seul roman écrit par des femmes, mais il est le plus miraculeusement accompli. Non pas que les autres soient dépourvus d'intérêt, c'est pas du tout, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire.
Mais ils sont, est-ce qu'ils nous sont tous parvenus d'ailleurs?
Non, il y en a beaucoup qui se sont
perdus. Voilà, il y a peut-être des traces,
perdus.
Mais en fait on ne peut pas en avoir
connaissance. Il y a des romans dont on a conservé que le nom. Mm-hmm. Les spécialistes de la littérature de l'époque estiment que donc on a perdu quand même un nombre conséquent de textes de l'époque. Mais il n'empêche que ce n'est dans ce sens-là pas le fait que Murasaki Shikibu a écrit ce roman n'est pas un fait exceptionnel si on pense à ce qu'était la pratique d'écriture des dames de la cour.
On ne peut pas dire que c'est une pionnière, par exemple.
Ce n'est pas une pionnière de ce point de vue-là. Mais elle a réussi, bien sûr, quelque chose que les autres n'avaient pas réussi jusqu'à présent, qui est de tenir une sorte de projet littéraire, même si, bien sûr, il y a aussi beaucoup de controverses et d'hypothèses sur et d'interrogations sur le fait qu'elle n'a peut-être pas écrit tout toute seule, qu'il y a peut-être eu des ajouts qui seraient d'autres mains, etc., compte tenu des mystères qui entourent
la transmission.
Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas.
Et sur cette question de la prose, ça veut dire que la prose, c'est pas tant que les femmes avaient un rôle qui était plus évalué que dans des siècles ultérieurs, c'est plutôt que la prose était dévaluée. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Oui, certainement. La prose était dévaluée.
Et pourquoi ?
Parce que il y a toujours une... J'aurais envie de dire d'abord parce qu'elle est féminine.
Oui, donc les deux vont, en fait c'est un cercle vicieux, c'est ça ?
C'est un cercle vicieux. Ensuite, parce que il y a toujours forcément une sorte de discrédit, ou en tout cas de méfiance attachée à une littérature, à un écrit, disons, qui n'est pas un écrit factuel de chroniques historiques. Mmh. Enfin, ce qui tient aux faits est toujours valorisé par rapport à ce qui tient à l'invention, à la fiction. Même si la question de la distraction demeure évidemment très importante. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est donc le rôle de la poésie à l'époque, parce que pour être bien en cours, il faut être un bon poète ou une bonne poétesse.
Qu'est-ce que ça veut dire justement d'être un bon poète ou une bonne poétesse ?
Alors, il faut savoir que on s'échange des poèmes absolument à tout bout de champ. C'est-à-dire que c'est le moyen de communication de l'époque.
C'est comme un texto.
Oui, on pourrait dire ça comme ça. Certains de mes collègues auraient peut-être les cheveux qui se dresseraient sur leur tête à l'idée que ça. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que on fait quelque chose, on envoie un texto ou un poème à la personne à qui on a accompli telle ou telle action. Si on a passé la nuit avec le prince ou n'importe quel homme qui passe la nuit avec une femme, est tenu le lendemain, une fois qu'il est reparti, de lui envoyer un poème à laquelle elle est tenue
poème.
Elle est tenue de répondre, etc., etc. Et la plupart de ces poèmes, de toute façon, sont destinés à être publics, sauf bien sûr pour les histoires qui sont destinées à rester clandestines pour des raisons politiques délicates. Les poèmes sont diffusés très rapidement, sont commentés. Si vous avez le malheur de faire un poème qui est considéré comme mauvais, tout le monde se moque de vous, votre prestige en prend un coup. Enfin, donc il y a vraiment un travail sur un prestige attaché à l'écriture poétique
en japonais. Par exemple, je passe la nuit avec un homme, je lui envoie le lendemain.
Ah non, c'est d'abord lui, hein.
C'est d'abord lui qui m'envoie un poème. Ce poème est public, c'est-à-dire que...
Il peut être public, ça dépend. Hein,
en tout cas, moi, je le reçois et je le trouve mauvais. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut être disqualifié, déshonoré pour un mauvais poème ? Est-ce qu'à ce moment-là, je le rends public et j'affiche manière là ?
Pour les relations privées, intimes, la correspondance peut rester privée. Mais comme on envoie des poèmes vraiment à tout bout de champ, c'est-à-dire qu'on fait une sortie, on envoie un poème, on le fait savoir par le biais du poème. C'est vraiment un mode de diffusion de l'information.
Et un commentaire de sa vie quotidienne.
Tout à fait. Et la cour, qui est un petit milieu, dans lesquels, bien sûr, on ragote, etc., va commenter. Et si vous faites un mauvais poème pendant des jours, va se murmurer de bouche à oreille, un tel a sorti un poème vraiment qui n'était ni fait ni à faire, etc., etc.
Donc il y a cette poésie, ce mode en fait poétique qui est vraiment très courant au Japon vers l'an 1000. Et il y a donc la prose qui, à l'inverse, est un genre dévalué, réservé aux femmes, parce que c'est un produit de la fiction et de l'imagination, c'est ça ?
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est plutôt vraiment, c'est la prose est dévaluée parce que la prose de fiction est dévalorisée parce que ce qui n'est pas prose de fiction est survalorisé.
C'est ça. Et donc, dans ce genre de prose, Murakashikibu, comment elle écrit en fait ? Quel type de prose elle a proposé ou inventé ? Et est-ce que c'est purement de la prose, parce qu'il y a quand même aussi des passages qui sont plus poétiques, justement les messages qu'on retrouve.
Tout à fait. Alors dans les 54 livres qui constituent le Genji Monogatari, il y a au total environ 800 poèmes. Donc c'est considérable parce que le roman qui relate donc des personnages qui vivent à la cour reproduit les habitudes de communication des différents intervenants, enfin des différents acteurs du roman. Donc le Genji passe son temps à envoyer des poèmes à ses différentes maîtresses qui passent leur temps à lui répondre.
Il restitue en ça l'ambiance de l'époque, cet usage
tout à fait,
du
exactement.
Poème.
Donc, mais c'est très important parce que ça donne une sorte de profondeur aussi au récit, parce que les résonances poétiques d'un poème, la manière dont il va s'inscrire dans tout un réseau d'images partagées avec d'autres textes, il y a des effets d'intertextualité aussi très importants, etc., donne une sorte de profondeur au texte qui vient compléter la partie en prose.
Genji fit glisser le verrou, ébranla la porte. Il se trouva dans une antichambre fermée d'un paravent derrière lequel scintillait une lueur. La dame n'y comprit goutte, mais perdant la tête, fit tous ses efforts pour crier. Aucun son ne vint. Elle avait enfoui son visage dans les édredons. « Écoutez, je vous en supplie, dit Genji, cette brusque irruption vous paraît naturellement fort impertinente, mais vous ignorez que j'ai attendu des années durant l'occasion d'exprimer mon admiration et mes sentiments. Si cette nuit je n'ai pu résister à la tentation de vous faire cette secrète visite, interprétez ma conduite étrange comme preuve de mon impatience à vous rendre un hommage depuis si longtemps dû. » Il parla si courtoisement et si doucement, il avait l'air si bon, que le diable lui-même n'aurait pu prendre ombrage de sa présence. Mais la dame jugea que la situation n'était guère convenable pour une épouse et dit sans trop de conviction « Je crois que vous vous êtes trompé. » Elle parlait bas. Son air éperdu la rendait plus attrayante encore. Genji, enchanté de sa mine, se hâta de répondre « Ma visite soudaine vous fait douter de mes intentions, je le vois. Laissez-moi vous assurer que je n'ai pas d'arrière-pensée. » Je cherche seulement quelqu'un avec qui causer un instant d'une chose qui me rend perplexe. Ce disant, il l'enleva dans ses bras, car elle était fort petite. Il l'emportait à travers l'antichambre lorsque Kujo, la servante mandée, entra dans la pièce. Genji poussa une exclamation étonnée, et la servante, se demandant qui pénétrait là, allait à tâtons dans leur direction. En approchant, elle reconnut au riche parfum des vêtements que ce ne pouvait être que le prince. Bien empêchée de dire ce qui se passait, elle n'osait proférer un seul mot. Une personne du commun, elle l'eût bientôt prise par les oreilles. Non, pensait-elle, même si ce n'est pas le prince, mieux vaut garder bas les mains. Plus on s'agite, plus les langues parlent. Mais si je touchais à ce beau seigneur... Tout est perdu. Elle suivit docilement Genji dans sa chambre. Là, très calme, il referma la porte sur elle. « Vous reviendrez chercher votre maîtresse à l'aube. »
Au cœur du dit du Genji et notamment au cœur de ce qui torture ce personnage de Genji. On est dans le livre 2, le moment où le Genji déclare son amour à l'impératrice, dans laquelle il pense retrouver d'une certaine manière sa mère. Et ce personnage du Genji est vraiment à la fois un Don Juan, comme vous l'avez dit, Anne-Maïa Sakai, et en même temps, tout au long du dit du Genji, on va le voir évoluer. Un être à la fois très beau physiquement, mais qui n'a pas forcément une attitude tout le temps morale, mais qui va faire en fait un apprentissage.
C'est vrai, il change au fur et à mesure que l'on avance dans le roman. Il faut quand même rappeler qu'on est dans une... La formulation est évidemment un peu anachronique, mais on est quand même dans une sorte de culture du viol. C'est-à-dire que
l'homme s'introduit
dans les appartements de la femme qu'il convoite. Et si elle n'est pas vraiment très très bien gardée, il va parvenir à ses fins. Et cela donnera ou ne donnera pas lieu par la suite à une relation. Mais c'est clairement un univers où les relations sexuelles et les relations entre les personnages...
Ne sont pas de l'ordre du consentement.
Ne sont absolument pas de l'ordre du consentement. Mais cela n'empêche pas, si l'on peut dire, dans l'univers du Genji, des relations qui sont aussi des relations amoureuses de se développer. Et l'une des plus remarquables du roman, c'est la relation qui lie le Genji avec la dame Murasaki, qui est d'une certaine façon la femme de sa vie. Enfin, qui est non seulement donc l'image qui est dans la filiation, ce qu'on appelle la filiation de Murasaki, c'est-à-dire cette filiation qui va de sa mère à la deuxième épouse, enfin à la nouvelle épouse de son père, puis etc. Donc, ce sont des femmes qui sont liées plus ou moins par des relations de famille. Elles sont cousines, elles sont nièces, elles sont tantes, elles sont etc. Et elles ont des ressemblances physiques. Et d'une certaine façon, Murasaki, donc la dame Murasaki, va être vraiment l'épouse de son cœur. Elle va souffrir énormément parce que ça ne va pas du tout empêcher les infidélités du prince. Bien au contraire, infidélités qui lui sont parfois d'ailleurs imposées parce que les relations hommes-femmes ont aussi des enjeux politiques extrêmement importants. Donc, quelqu'un qui veut asseoir son pouvoir à la cour ou qui veut être sûr que sa fille sera protégée va en quelque sorte l'offrir au prince pour la faire bénéficier de la protection d'un puissant. Donc, on a toutes sortes de relations qui vont se greffer au fil des cahiers, au fil des livrets autour du Genji. Et la souffrance de Murasaki, de la dame Murasaki, est très clairement décrite aussi. Donc, il y a non seulement...
Presque une dimension psychologique.
Absolument,
en fait.
Une dimension psychologique très importante. Et cette dimension psychologique, elle apparaît à la fois dans la description psychologique, dans les sentiments qui sont prêtés aux différents personnages, avec quelques passages où il y a vraiment des développements. C'est souvent plutôt des petites touches qui permettent donc à l'autrice de transmettre au lecteur les sentiments et les passions parfois de ces différents personnages. Il y a aussi la voix narrative. plutôt les voies narratives, parce que l'agencement narratif est compliqué, et on a une voie narrative qui parfois est très révérencieuse, vraiment admirative, et on a envie de dire parfois éperdument amoureuse de son principal héros, donc, mais en même temps elle peut être aussi très ironique. Parfois, elle l'est, en disant...
Donc elle peut se moquer.
Voilà, elle peut le critiquer. Et elle peut aussi, et ça c'est quelque chose qui m'amuse toujours beaucoup, on trouve des petites notes. En général, c'est dans la fin des chapitres, soit des livres, soit des cahiers, soit des chapitres, puisque enfin, aucun des termes ne correspond tout à fait à ce que c'est. Enfin, souvent à la fin, on voit donc une sorte de voix qui apparaît et qui dit quelque chose comme « Bon, mais ça, je l'ai déjà beaucoup raconté, donc je passe, j'abrège. » Enfin, des choses comme ça.
Donc, j'ai déjà 600 pages de texte.
C'est quelque chose de très auto-ironique aussi, qui est très amusant et qui est quand même aussi, là encore je vais être dans le cliché, j'en suis désolée, mais qui est quand même d'une modernité absolument incroyable, une sorte de conscience.
Une sorte de voix off, oui, presque à la fois de jugement, d'accompagnement du personnage principal. Oui. Est-ce qu'il y a une sorte de voix morale ? C'est-à-dire que cette voix-là, est-ce qu'elle incarne la conscience du Genji ? Qui va évoluer, c'est-à-dire à la fois dans sa trajectoire amoureuse, sentimentale, mais aussi dans sa trajectoire politique. Parce que, il faut le dire, le Genji est un prince magnifiquement beau, on l'a entendu, il sent bon, il est beau, mais ça n'est pas celui qui va hériter. C'est pas celui qui doit, en fait, gouverner. Donc, est-ce qu'il y a une trajectoire presque morale qui est tirée au fur et à mesure du roman, à la fois par le Genji, mais aussi pour le lecteur ?
La réponse à cette question est compliquée parce que si je vous réponds oui, probablement je vous induis en erreur et ma réponse est fausse. Parce que ça n'est pas un sens moral comme on l'entendrait.
C'est pas moralisateur.
C'est pas moralisateur. Et puis ça n'est pas le sens moral comme on l'entendrait en Occident. Bon, je vais pas revenir sur la question de la morale chrétienne, mais c'est pas du tout. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. L'arrière-fond religieux, c'est bien sûr le bouddhisme. Donc, s'il y a quelque chose qui relève de la morale, on est bien plus dans la question de la rétribution, du karma, de la manière dont des actions vont avoir des conséquences sur les générations suivantes, etc.
Donc, il y a quand même cette voix-là qui apparaît et on ne peut pas parler au sens propre de roman d'apprentissage. On ne pourrait pas dire ça non plus.
Non, parce que pour qu'il y ait véritablement roman d'apprentissage, il faudrait qu'il y ait une sorte d'accomplissement. Le héros réussirait à force de travail sur lui-même, etc. Alors, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent, parce que les rapports de force sont essentiellement des rapports de force politiques. Si le Genji ne devient pas empereur, alors qu'il est un fils, qu'il est le fils d'un empereur, c'est parce que on le voit dès le tout début du roman, il y a un devin qui est consulté et qui explique que s'il devait accéder au pouvoir suprême, ça déclencherait des catastrophes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a...
quelque chose qui pèse sur lui.
Il y a quelque chose qui pèse sur lui. Donc, le prince va être, à cause de cela même, en quelque sorte déclassé par son père, qui fait ça, en fait, pour le protéger. Donc, il ne deviendra jamais prince héritier. Du coup... Le prince héritier en titre, si je puis dire, et la mère du prince héritier qui craignait pour son fils vont donc être beaucoup plus magnanimes, si l'on peut dire, à son égard. Et il va devenir, en fait, l'homme puissant, mais non pas en étant l'empereur, mais en étant le principal dignitaire de la cour.
Les jours passaient sans que cessassent la pluie ni les vents, sans que s'apaisât le tonnerre. Innombrables étaient ses ennuis qui le laissaient désemparé lorsqu'il songeait que le passé et l'avenir ne lui offraient qu'affliction. Que faire, se disait-il ? Retourner à la capitale en prenant prétexte des intempéries ne ferait, tant qu'il ne serait point rentré en faveur, que l'exposer davantage à la risée publique. Il pensa bien couper les ponts en gagnant quelques montagnes plus retirées encore, mais que le bruit se répande qu'il avait fui les vagues et les vents, il n'y gagnerait, songeait-il troublé, qu'une réputation de lâcheté qui s'attacherait à son nom jusque dans les âges à venir. Dans ses rêves, revenait toujours la même vision qui désormais le hantait. Sans une éclaircie, les jours se suivaient, ajoutant à son impatience d'être sans nouvelles de la ville. Et il se demandait avec angoisse si ses jours n'allaient pas se terminer dans cet abandon. Mais dans ce déchaînement des éléments qui ne permettaient même de mettre le nez dehors, nul ne venait jusqu'à lui. Or, voici que, venu à grand-peine de la deuxième avenue, se présenta un messager en piteux état et trempé jusqu'à l'os. Ce rustre, que s'il avait croisé sur son chemin, il eût hésité à tenir pour un être humain, et que l'on eût sur l'heure chassé de sa présence, lui inspira une sympathie qui lui fit reconnaître avec horreur à quel degré de déchéance il était tombé.
France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
C'est un épisode vraiment frappant, Anne Bayer-Sakai, parce que c'est le moment où le Genji est en exil. Il y a deux moments d'exil pour lui, à Suma et à Akashi. Et ce texte est vraiment magnifique parce qu'on est clairement au cœur de ce que vous décriviez, à savoir la dimension psychologique de ce roman. Là, on est vraiment dans la tête du Genji, où il y a en fait un entremêlement entre l'environnement extérieur, l'intempérie, le temps, et en même temps, ce qui se produit en son fort intérieur. Alors là, on est presque dans la subjectivité, dans la tête du prince.
Oui, et puis on est dans un univers où il y a une sorte de correspondance entre les éléments naturels et la situation et les émotions des personnages. Et entre l'épisode de Suma, l'épisode d'Akashi, il y a cette fameuse tempête qui est dévastatrice et qui est, on a l'impression qu'elle est à la fois une sorte de punition et qu'elle est aussi une projection des tourments intérieurs. En tout cas, on peut le lire de cette façon-là. Bien sûr, toutes les interprétations sont ouvertes.
Mais à la fin du texte, ce qui est intéressant dans ce qu'on a entendu, c'est que on voit en fait aussi le cheminement, c'est-à-dire on n'a dit pas un roman d'apprentissage, il y a quand même une destinée, il n'y a pas de dimension morale véritablement dans ce roman, mais il y a quand même une réflexivité du Genji sur lui-même.
Tout à fait. Et il y a une... De toute façon, on a beaucoup dit que le roman du Genji était vraiment marqué par le sentiment de l'impermanence, comme toute la culture de cette époque. C'est vraiment une notion très importante.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par là précisément ?
C'est lié bien sûr au bouddhisme. C'est l'idée que tout passe, que rien n'est stable. De toute façon, tout est emporté parce que tout n'est qu'illusion. Et le Genji, comment dire, découvre, si l'on peut dire, dans sa chair, avec cet exil, que la trajectoire politique qui était la sienne elle-même n'est que quelque chose qui n'est qu'un instant finalement. Et vous avez donc ce passage dont vous avez entendu la lecture, mais il y a aussi juste avant le moment où il quitte la capitale pour partir en exil, il y a des adieux assez déchirants avec les principales épouses, enfin les principales femmes de son entourage, et cette idée que la séparation est peut-être définitive et peut-être le point final finalement de son propre itinéraire, donne quelque chose évidemment de très très poignant, donc une tonalité poignante à tout cet épisode. Mais il est aussi, dans l'économie globale du roman, il est passager.
Il est passager et on a l'impression aussi que c'est presque un passage obligé. Avant de renaître, de rejaillir, en fait, avant la gloire. C'est-à-dire que la trajectoire du Genji est faite d'ascension, d'arrêt et d'avancée. C'est-à-dire que c'est juste un équilibre, en fait, entre malheur, d'une certaine manière, et bonheur, si je peux le dire, de manière assez grossière.
Oui, et c'est... Et c'est probablement ça qui fait aussi que l'ensemble de la de l'intrigue et de comment dire du déroulement de ce roman demeure aussi séduisant pour un lecteur ou une lectrice d'aujourd'hui, parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc s'il n'y avait pas aussi oui. des accidents de parcours, ce personnage serait assez je dirais pas insupportable, mais quand même, enfin, dans cette espèce de, dans cette espèce de réussite totale, l'homme beau, magnifiquement doué, à qui tout réussit et point final, ça ne fera
puis
pas
sera
forcément
pas
voilà, un roman. Ben,
voilà. C'est-à-dire que les intrigues de la cour réduites à elles-mêmes, bon, au bout d'un moment, ça, il y a comme une accumulation d'anecdotes qui ne sont pas très intéressantes. Si effectivement ça n'avait été que sa trajectoire à lui sans embâge, bon, ça n'est pas très intéressant. C'est plutôt le mélange des deux. Et c'est
exactement.
Et ce moment de l'exil où il est contraint de réfléchir à lui-même est vraiment, je le redis, ce passage est vraiment frappant parce qu'en plus, on a à la fin ce surgissement en fait du messager. Comme si une figure, tout à coup, il y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'on a la dimension très réaliste de la politique de l'exil, et puis la dimension psychologique de la réflexion sur soi-même. Et puis, il y a presque une dimension surnaturelle du messager qui arrive, où là, presque tout s'effondre pour le Genji.
Mais la dimension du surnaturel est de toute façon très très présente dans le roman. Et c'est vrai tout à fait on le voit dans l'épisode Suma Akashi, mais l'une des grandes forces maléfiques que l'on découvre dans le roman, c'est cette sorte d'émanation des femmes jalouses qui vont qui déclenchent comme ça des sortes d'émanations maléfiques qui peuvent aller jusqu'à amener la mort de celle qui est la favorite du prince à un moment donné.
Mais ça, c'est un motif courant dans la prose de l'époque, ou c'est plutôt vraiment le génie de Shikibu, de Murasaki Shikibu, d'avoir mélangé l'ensemble?
Je ne pense pas qu'il y ait de réponse catégorique. C'est-à-dire que ça fasse partie de la représentation du monde à l'époque.
Oui.
Qu'il y ait des forces que l'on ne comprenne pas, etc. Bien sûr, ça fait partie de la représentation du monde de l'époque. Mais la force de Murasaki Shikibu, c'est d'avoir réussi à intégrer ça comme un moteur romanesque.
Dire notamment donc ces femmes jalouses qui dévoilent des puissances folles de nuisance.
Ça déclenche des forces maléfiques.
あなたは
お分かりのはずでしょう嘆きわび空に乱るる我が玉を結びとどめよ従いの妻お方様いかがなされましたお方様早くお湯をお産が近づいておられますもっと起きたを
Pour l'avoir ma vie durant délibérément ignorée, voici qu'à l'approche du soir, j'ai vu la mort me frapper dans ce qui m'était le plus cher. J'ai pu de la sorte prendre l'entière mesure de mon destin et des limites de mon propre cœur. Et mon esprit est libre désormais de toute entrave. Or donc, faudra-t-il à l'heure imminente de la séparation d'avec ces femmes, dont l'une ou l'autre, plus encore que du vivant de celle-là, est devenue familière à mes yeux, que mon cœur de plus belle se trouble. Ah, la suprême vanité, à la mesure d'un cœur misérable. Ainsi songeait-il, et de couvrir ses yeux pour tenter de dissimuler des larmes dont le flot bientôt cependant le trahit. Ce que voyant, les femmes moins encore ne surent retenir les leurs. Toutes elles eussent voulu s'ouvrir à lui de leur détresse, à l'idée qu'elles allaient être abandonnées. Mais elles étaient incapables de parler. Et les sanglots étouffaient leur voix. Tels étaient les propos qu'aux heures silencieuses de l'aube, après une nuit passée à gémir, ou du crépuscule, au terme d'une journée de morne songerie, il tenait à celle de ces femmes qui ne lui étaient point indifférentes. La dame Chujo, qu'il avait tout enfant vu dans son entourage, avait sans doute été de sa part l'objet de discrètes attentions. Par égard pour une maîtresse qui lui inspirait une crainte respectueuse, elle avait évité de répondre à ses avances. Or, maintenant que celle-ci était morte, il s'était souvenu d'elle. Non point certes dans une intention frivole, mais parce que plus que tout autre, elle en avait été choyée. Si bien qu'elle lui était chère du fait même qu'elle évoquait pour lui la mémoire de la disparue.
Livre 41 d'Udi du Genji, c'est la mort de Dame Murasaki, ce qui bouleverse le prince du Genji. Et on voit bien que, effectivement, au-delà, il y a les moments de souffrance, au-delà de ces moments de souffrance qu'on a pu décrire avec l'exil du Genji, il y a aussi, en fait, la mort qui hante chacune des pages. C'est-à-dire qu'il y a une part sombre, en fait, qui énerve ce texte.
Je pense que la... Bon, d'abord, comme je vous le disais, le bouddhisme est très présent dans ce texte, comme il est bien sûr dans toute la culture de l'époque. Et le rapport à la mort est donc justement dans ses différentes déclinaisons, bien sûr, parce que c'est lié aussi à l'impermanence, etc. Est une sorte de donnée fondamentale de la perception du monde de l'époque. Et les pages donc qui sont consacrées à la mort de la dame Murasaki sont très très émouvantes. Il faut ajouter quand même que la mort du Genji n'est pas racontée dans le roman.
Et pourquoi?
C'est comme ça.
Par pudeur de la part de cette voix narratrice qui était éperdue d'amour pour son Genji.
On ne sait pas. On constate simplement donc le chapitre qui doit être le 41e. Se termine sur une sorte de fête qu'il a donnée pour d'une certaine façon une fête d'adieu, et puis on apprend dans le chapitre suivant qu'on est passé à la suite, quoi. Donc il y a une sorte de mystère.
Choc, quand même.
Oui, mais c'est cette sorte de césure dans le texte, c'est ce dont s'est emparée Marguerite Yourcenar, puisque elle a écrit une nouvelle qui s'appelle Le dernier amour du prince Genji, qui figure dans les Nouvelles orientales qu'elle a publié en 1984, où en fait elle a compensé, si l'on peut dire, ce silence du Genji et a raconté donc.
Et comment elle raconte la mort du Genji?
Alors elle le raconte à travers donc sa, c'est pour ça que c'est le dernier amour. Donc c'est une des femmes qu'il a accompagné toute sa vie, qui va l'accompagner aussi dans ses derniers jours, et elle va se présenter à lui sous deux aspects différents, parce que il ne la reconnaît pas. Et vraiment, dans ses derniers instants, il va lui parler de toutes les femmes qu'il a aimées, y compris donc des deux dernières qui sont en fait celles qu'il a devant lui, mais sous des aspects, si l'on peut dire, différents. Et elle se rend compte à ce moment-là qu'il ne parle jamais, qu'il ne la mentionne pas, elle, parmi celles qu'il aurait aimées.
Et est-ce que ça colle à peu près au texte où vraiment c'est Marguerite Yourcenar qui arrive
que vous dire
en disant voilà c'est mon Genji à moi, c'est la mort du Genji, ou est-ce qu'il y a une volonté aussi de prendre part en fait aussi à cette réécriture, parce que
oui, mais ça c'est une autre question. Je pense qu'il y a un aspect, bien sûr, il y a un exercice de style aussi chez Yourcenar dans cette affaire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette entreprise yourcenarienne s'inscrit dans quelque chose qu'on trouve depuis les origines du Genji, mais enfin depuis le moment, enfin dans le Japon classique déjà, et puis dans le Japon contemporain, il y a énormément de réécriture, d'adaptation du Genji.
On a entendu justement une adaptation en manga qui date de 87, c'est réalisé par Shigaburo Sugi. Pourquoi en fait cette mode de la réécriture de...
Parce que c'est un texte canonique. Vraiment, ça fait partie du canon de la littérature japonaise. Et si on dit canon, ça veut dire une des choses, c'est qu'un texte canonique revit à chaque époque parce qu'il est réinvesti, il est réécrit, il est transformé, il donne lieu à toutes sortes d'écritures secondes. Je vous parlais tout à l'heure des écritures en langue moderne, mais les traductions, c'est pareil. Et si en français, par exemple, nous n'avons qu'une traduction intégrale, il faut quand même savoir qu'en anglais, il y a quatre quand même traductions intégrales du Genji. ce qui est quand même considérable.
Et alors, qui vont différer en fonction des époques, évidemment, oui. Mais est-ce qu'il va y avoir aussi des réécritures en fonction de certaines tendances presque? Par exemple, est-ce qu'au Japon, on a des Genji qui sont plutôt axés sur la dimension sentimentale du texte, d'autres plus sur l'aspect politique?
Certaines adaptations vont faire le choix d'extraire, enfin, une sorte de réécrire dans sorte de version digest, par exemple, qui vont se concentrer sur tel ou tel aspect, telle et telle histoire, l'amour, ou tel aspect politique de la carrière du Genji. Mais sinon, on a quand même des versions intégrales, y compris le manga le plus célèbre, donc, qui est l'adaptation du Genji, qui s'appelle donc, qu'on doit à la mangaka, l'autrice de manga Yamato Aki, qui est un manga qui s'appelle Asaki Mimishi, qui, je crois, n'a pas été traduit, mais qui est un best-seller qui a été publié entre 79 et 93. Il s'en est vendu, j'ai vérifié, 18 millions d'exemplaires au total, ce qui est absolument énorme.
Dans le monde ?
Non, au Japon.
Au Japon.
Au Japon. Donc tout exemplaire confondu, c'est-à-dire tout chaque, parce que ça a été publié en 13 volumes, 18 millions d'exemplaires au total. Et le manga lui-même est une adaptation assez fidèle du roman. Beaucoup de jeunes ont connu le Genji à travers ce roman qui a été un vrai, ce manga qui a été un vrai best-seller. Et le manga lui-même a été ensuite adapté à la scène. Mais c'est le manga qui a été adapté, c'est pas le roman. Donc vous voyez des effets de transmission, de transformation.
Ce qui veut dire
qui sont constamment.
Tous les Japonais ont leur Genji, connaissent le Genji, s'approprient en fait le Genji.
Oui, et il y a eu en 2008, pour le millénaire du Genji, c'est une date fictionnelle, hein, mais qui a été, il y a eu une toute sorte de commémoration autour du Genji. Pour commémorer donc le millénaire de son écriture. Et c'est donc une manifestation qui a été organisée par les autorités, c'est par le ministère de la Culture. Et le logo de cette manifestation, la licence du logo, s'est vendue plus de 155 millions de fois. Donc vous imaginez l'ampleur qu'a pris la chose. Et ça veut bien dire que d'une façon ou d'une autre, la plupart des Japonais ont eu un accès à cette œuvre, d'une façon ou d'une autre. Pas forcément la version intégrale, mais en tout cas, une version ou une autre.
Merci beaucoup, Anne Bayard-Sakai, de nous avoir fait découvrir le dit du Genji, ou peut-être redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà. En tout cas, on peut lire deux éditions de ce texte. Il y a les éditions POF, P-O-F, Publication Orientaliste de France, cette collection Impermanence, dans une traduction de René Siffer, la seule, vous l'avez dit, Anne Bayard-Sakai. Et puis, une édition illustrée aussi que je cite par la peinture traditionnelle japonaise. C'est 520 peintures en 3 volumes et c'est chez Diane de Cellier. Merci encore à vous. Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Lord à l'Est, réalisation Nicolas Berger, prise de son Ludovic Auger. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.